VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Nidia Abidjan, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal au Togo. Plusieurs quartiers de la capitale togolaise, Lomé, restent barricadés par la population ce vendredi. Sur les grands axes de la ville, dans des quartiers populaires, les commerces sont restés fermés et des camions des forces de l'ordre ainsi que des gendarmes sont postés au carrefour, selon des journalistes de l'AFP. Des tirs de gaz lacrymogènes ont également été observés dans la matinée. La tension reste donc très forte après la dispersion à coups de gaz lacrymogène hier soir par les forces de sécurité de la foule massive qui s'était rassemblée dans le centre de la ville. Les manifestants qui se disaient déterminés à rester toute la nuit sur place exigeaient le départ du président Faure Gnassingbé et la mise en place de réformes constitutionnelles. Le film des événements avec notre correspondante à Lomé, Kyle Orson.
C'est dans les débandades totales qu'après fait la seconde journée des manifestations de l'opposition à Lomé. Les manifestants ont été délogés de la voie publique à coups de gaz lacrymogène. Il sonnait 22h temps universel quand les premières détonations retentissent. Instinctivement, c'était le repli systématique. Les leaders qui étaient au carrefour de Caen prenaient le boulevard du 13 janvier côté est. Les militants se replient dans les rues adjacentes. En quelques minutes, des jeunes s'organisent, posent des barricades et ripostent avec des jets de pierre. En face, des forces de l'ordre en rang de bataille usent de grenades lacrymogènes et peut-être en usent de trous. Arrêtez les gaz, crie le chef des opérations, estimant que ces éléments ont la gâchette facile. Les gendarmes, vous allez perturber leur sommeil, ajoute-t-il en les sommant d'arrêter les tirs. L'opposition togolaise réclame dans la rue le retour à la Constitution de 1992 qui limite le mandat présidentiel et consacre un mode de scrutin à deux tours. Mais depuis la forte mobilisation des 6 et 7 septembre, les exigences ont changé. En début de soirée, Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition, demandait encore la démission du président Faure Gnassingbé et l'instauration d'une transition. Ce qui est sûr, aucune consigne n'a été donnée à l'issue de ces deux jours de manifestation qui ont mobilisé des dizaines de milliers de manifestants à Lomé. Kyle Orson, Lomé, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, les autorités sur le qui-vive. Le gouvernement a accusé jeudi des proches de l'ancien président Laurent Gbagbo de tenter de déstabiliser le pays à travers une série d'attaques à main armée. Plus de détails avec Yakuba Ouédraogo.
Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a qualifié d'instigateur d'un projet de déstabilisation Stéphane Kipré, gendre de l'ex-président, et Picasso Damana, un ex-responsable du mouvement des jeunes patriotes. Les deux hommes vivent en exil. Les enquêtes après les 7 attaques à main armée ont conduit à l'arrestation de 35 personnes selon le ministre de l'Intérieur. Parmi les 35, 6 militaires et 7 civils présentés comme des miliciens. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a ajouté que le projet de déstabilisation implique des responsables politiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Ces personnes instrumentalisent et arment certains démobilisés et militaires déloyaux, a-t-il précisé. Sidiki Diakité a fait ses déclarations après un Conseil national de sécurité extraordinaire tenu au palais présidentiel. La question de la sécurité demeure en Côte d'Ivoire avec des mutineries, des attaques contre les postes de police et de gendarmerie et une série d'évasions de prisonniers.
Au Gabon, 16 partisans de Jean Ping, le chef de file de l'opposition, placés en détention après leur arrestation lundi en marge du rassemblement de l'opposition à Libreville. Une dizaine d'autres sont encore entendus par la police. Morgane Guiriec.
26 personnes ont été présentées jeudi et 10 autres le seront aujourd'hui, d'après le parquet. 16 ont été placés en détention pour attroupement non armé, ayant troublé l'ordre et la tranquillité publique, a indiqué à l'AFP le procureur de la République, Steve Dong et Sam Dong. Parmi les 10 militants relâchés figurent 6 mineurs et 4 personnes arrêtées à leur domicile, alors que des manifestants s'étaient réfugiés chez eux, a-t-il précisé. Au total, 36 personnes ont été arrêtées lundi à Libreville en marge d'une marche non autorisée de quelque 300 militants pro-Ping qui a été dispersée par les forces de sécurité. Un cadre de l'opposition, Frédéric Massavala, a en outre été arrêté mercredi, a déclaré son avocat Maître Eric Igaïga. Il était toujours en audition jeudi soir, a indiqué de son côté le procureur. Des recherches d'indices et d'éléments compromettants chez ce porte-parole de la Coalition pour la Nouvelle République, CNR, le parti autour de Jinping, se poursuivent, a ajouté le magistrat.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Kenya, le président de la commission électorale, Wafula Chebukati, passe aux aveux. Il admet l'existence de défaillances dans la conduite de l'élection présidentielle du 8 août, invalidée par la justice. Précision d'Abdourahman Dia.
Dans une lettre interne envoyée à son directeur exécutif et divulguée hier par la presse kenyane, le président de la commission électorale liste toute une série d'erreurs commises par son équipe dans l'organisation des élections. M. Chebukati s'étonne notamment que certains procès-verbaux de bureaux de vote ne présentaient pas les signes d'authentification prévus par la commission. Il se demande aussi pourquoi les téléphones satellitaires achetés au coût total de 6,7 millions d'euros pour couvrir les bureaux de vote de localités reculées n'ont pas fonctionné. M. Chebukati s'interroge enfin sur le fait qu'on compte avec un identifiant et un mot de passe à son nom, créé à son insu, ait été utilisé près de 10 000 fois pour accéder au système informatique de la commission électorale. Saisie par l'opposant Raila Odinga, la Cour suprême du Kenya avait invalidé le 1er septembre la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta en raison d'irrégularités révélées dans la transmission des résultats. Une nouvelle date pour le scrutin est fixée au 17 octobre.
Politique tchadienne, à l'occasion de la conférence des donateurs pour le Tchad à Paris, la PRC, la plateforme de revendication citoyenne tchadienne, a organisé un contre-forum dans la capitale française pour contester la levée de fonds. Selon la société civile et l'opposition tchadienne, ces fonds ne feront que servir la corruption et accentuer le surendettement du pays s'ils ne sont pas suivis de mesures de contrôle et d'accompagnement en matière de gestion. Nathalie Barge a joint Abdel Kerim Yacoub Koundougoumi, coordonnateur du pacte et membre de la PRC.
Nous sommes réunis pour attirer l'attention de la communauté internationale, des bailleurs de fonds, des institutions européennes et de la France qui s'apprêtent à soutenir le gouvernement tchadien pour lever des fonds. Nous leur rappelons la situation actuelle du Tchad, catastrophique, est due à la malgouvernance et surtout à la manque de vision de développement. On ne peut pas redonner encore une troisième fois des outils, de l'argent et des financements à un gouvernement qui a déjà échoué deux fois dans le même cas de figure. Il faut déjà leur demander à ce gouvernement qu'est-ce qu'il a fait de l'argent qu'ils leur ont donné deux fois. Et de deux, le Tchad a eu 10 années de pétrole, de revenus du pétrole. Personne n'a demandé pourquoi, avec 13 000 milliards de dollars, on n'arrive pas à développer le Tchad. On rappelle aussi à cette communauté internationale que ce même gouvernement a opprimé son peuple. La liberté d'expression n'existe pas. La démocratie n'existe pas. On est en pleine crise post-électorale. Si vraiment cette communauté internationale veut aider le Tchad, ce n'est pas de donner de l'argent à ce gouvernement, mais d'exiger de ce gouvernement-là une administration fiable, une gestion saine et surtout d'aider le Tchad à régler cette crise post-électorale.
Est-ce que vous avez rencontré notamment certaines personnes des autorités françaises pour demander des comptes finalement sur la manière dont seraient distribués ces fonds par rapport aux garanties que vous exigez?
Justement, le fait de donner de l'argent ou se mobiliser auprès du gouvernement d'Idriss Déby pour lever des fonds et leur donner de l'argent frais, sans condition, montre que la France, l'Union européenne, leur priorité n'est pas la bonne gouvernance, pas la démocratie, mais leur priorité, ce sont les intérêts géostratégiques, économiques et sécuritaires du Sahel et de l'Afrique. Leur intérêt, c'est leur politique migratoire. Et quand on sait qu'ils sont en train de chuchoter Idriss Déby, c'est parce qu'ils veulent que le Tchad et le Niger traitent les réfugiés qui remontent de l'Afrique vers l'Union européenne. Nous sommes très inquiets par ces engagements qu'Idriss Déby et son gouvernement qui sont en train de prendre vis-à-vis de la communauté internationale, parce que ce n'est pas lui qui va le payer, c'est la génération future qui va le payer. Donc, c'est nous les comptables. Si c'est nous qui sommes les comptables, nous devons nous mobiliser pour empêcher une énième dette qui va encore alourdir cette dette qui nous pèse déjà dessus. Donc nous sommes concernés et nous nous impliquerons pour qu'aujourd'hui un gouvernement ne puisse pas se permettre d'aller prendre des engagements en notre nom.
Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, coordinateur du pacte, membre de la plateforme de revendication citoyenne tchadienne. Et pour terminer, dans la Caraïbe, l'ouragan Irma, avec ses vents soufflant à 280 km/h, progresse toujours en direction de la Floride aux États-Unis. Le bilan de son passage aux Antilles s'est alourdi, au moins 10 morts dans plusieurs îles de l'archipel. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Personnel.